Bonjour et bienvenue à Histoire du Québec, la version francophone de Histories of Québec. Je suis votre animatrice, Rosemary Hawson, et je suis courtière immobilière, photographe et écrivaine de Montréal, qui demeure actuellement dans les cantons de l'Est. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce que je fais, je vous invite à visiter mon site web à rosemaryhawson.com. Et à la fin de chaque épisode, il y aura un petit fait ou une anecdote à mon sujet. Cette série se présentera finalement sous deux formes. Ce podcast est, une fois que j'aurai obtenu une ou deux subventions, une version vidéo plus condensée. Parfois, j'animerai seule, comme pour ce premier sujet, et parfois je co-animerai et ou j'inviterai quelqu'un à participer. Les sujets seront variés et iront des biographies aux événements en passant par les quartiers de villes et les villages. Tout ce qui a un rapport avec le Québec, en fait. Lorsque je conviverai un village, nous partirons de ses origines jusqu'à aujourd'hui pour lequel j'interviewerai les habitants, j'essaierai des produits locaux, je vais découvrir les meilleurs endroits à visiter et à magasiner et je parlerai des problèmes auxquels les habitants peuvent être confrontés aujourd'hui. Et je prendrai de nombreuses photos qui seront éventuellement disponibles à l'achat sur ma boutique et lors de mes expos. Cette première série portera sur les origines de Griffintown et de Goose Village. Elle aborderait également la construction du pont Victoria et de l'église Saint-Patrick. Le canal de la Chine aurait son propre épisode, tout en examinant le pourquoi et le comment de l'immigration irlandaise au Canada. Avant de commencer, je dois non seulement souligner, mais aussi rendre hommage à la source principale de cette série. J'avais écrit les premiers épisodes plusieurs mois avant de m'y mettre sérieusement, et c'est dernièrement que je suis tombée sur An Irish Heart de Sharon Doyle Dreiger. Ce livre. Je pensais l'utiliser pour étoffer mes épisodes ici et là, et au lieu de ça, j'ai fini non seulement par tout réécrire, mais aussi par créer des épisodes supplémentaires grâce à la profondeur que je pouvais maintenant atteindre. Je suis très reconnaissante à Sharon pour le voyage qu'elle m'a fait faire et je recommande vivement ce livre, surtout si vous avez des ancêtres irlandais qui ont débarqué au Québec. Allons-y! Juste à l'ouest du Fort Ville-Marie, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Vieux-Montréal, se trouvait le sous-fief de Nazareth. En 1654, Paul de Chamelet de Maisonneuve avait concédé la terre à Jeanne Mance, qui avait 48 ans à l'époque. Il s'agit d'une terre de 112 arpents, ou 94 acres, qui constitue aujourd'hui le cœur de Griffintown. Elle construit un hôpital situé à 10 minutes du fort sur un terrain de chasse traditionnel, où elle et les religieuses soignent les malades ainsi que les blessés lors des attaques iroquoises. Les sœurs de l'Hôtel-Dieu, ayant du mal à subvenir à leurs besoins avec le tabac et les autres récoltes qu'elles cultivent, font subdiviser les terres et louent des lots à des Montréalais éminents comme la veuve Charlotte Guillemin qui épouse James McGill. Les riches avaient tenté de construire des résidences de campagne sur le fief, mais les résultats furent plutôt décevants. Le terrain est inondable, l'air est souvent humide et le sol est mince. Les sœurs industrieuses, et leur nouveau seigneur, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, se diversifie en installant sur le terrain une glacière, un moulin à vent et un quai de traversier. La traite des fourrures commence alors à se déplacer vers l'intérieur des terres et les voyageurs peuvent faire le voyage par voie d'eau en remontant les rapides de la Chine. Ils débarquent donc à Montréal et font le reste de leur voyage à pied, sortant du village par les portes de l'ouest et passant par Nazareth. Leur présence turbulente sur cette terre paisible incita les Sulpiciens a tenté la création d'un canal en 1689. Les locataires endettés doivent creuser un canal d'un mille de long entre le fleuve Saint-Laurent et la Chine, mais les travaux prennent fin après qu'environ 1500 guerriers iroquois ont attaqué la Chine le 4 août, tuant 24 colons et faisant plus de 70 prisonniers. Le financement est le principal problème lors d'une deuxième tentative 10 ans plus tard. Ce projet restera en suspens pendant plus d'un siècle et ce sont les Irlandais qui le construiront. Le 11 mai 1697, Pierre Lebert achète un arpent de terre en bordure du fief de Nazareth, sur la route de la Chine, et y fait construire une chapelle en l'honneur de Saint-Anne. Lebert participe à la conception de l'édifice en s'inspirant de l'église Notre-Dame de Bon Secours de Montréal. La première messe est célébrée le 19 novembre 1698. Des centaines de pèlerins se rendent à la petite chapelle le 26 juillet pour la fête de Sainte-Anne. Et tout au long de l'année, car de nombreux Canadiens français lui en sont dévoués, des marchands de nourriture et de boissons s'installent pour l'occasion et certains commencent à vendre de l'alcool. En 1736, les autorités en ont assez des troubles de l'ordre public et des bagarres qui éclatent autour de l'église et interdisent la consommation d'alcool dans le quartier, qui devient alors le quartier Sainte-Anne. À la fin du siècle, les pèlerinages avaient pratiquement cessé et la chapelle fut abandonnée. Elle finit par brûler, mais son héritage demeure. Cette section de Nazareth est désormais connue sous le nom de Sainte-Anne. La mauvaise réputation de la région en termes d'ivrognerie va d'ailleurs perdurer. Le 8 septembre 1760, 2000 manteaux rouges traversent le fief de Nazareth, passant devant la chapelle abandonnée de Sainte-Anne et franchissant la porte Récollet de Montréal à l'angle de Notre-Dame et de ce qui s'apparaît plus tard, la rue McGill. Le régime français est terminé et la Nouvelle-France est désormais sous domination britannique. Le 7 septembre, le gouverneur français, le marquis de Vaudreuil, se rend aux Britanniques et Montréal est encerclé par les soldats anglais. Les nouvelles autorités permettent aux quelques 6500 citoyens de la Nouvelle-France de continuer à vivre presque comme avant. Parmi les concessions faites par les Britanniques, il y a la garantie du droit de propriété de chacun, en plus de la liberté de religion. Ainsi, les 6 ordres de religieuses de la colonie peuvent continuer à entretenir des écoles, des hôpitaux et des maisons pour les personnes âgées. Les Sœurs de l'Hôtel-Dieu restent propriétaires de Nazareth et la région n'en est pas affectée. Bien que les Britanniques ne soient pas aussi indulgents envers les prêtres jésuites, ceux du séminaire de Saint-Sulpice sont tolérés, car le général James Murray est convaincu que les Canadiens français se révolteraient s'ils étaient privés de tous leurs prêtres. Il avait probablement raison. C'est cette victoire britannique qui commence à changer le visage de la colonie pour la première fois depuis sa naissance. Les entrepreneurs britanniques et américains viennent alors en masse à Montréal, désireux de s'emparer du lucratif commerce des fourrures. C'est ainsi que l'argent écossais, provenant principalement des Highlands, se répand dans les quartiers de Montréal qui sont encore bien prospères aujourd'hui. Les investisseurs commencent à façonner stratégiquement la ville afin qu'elle devienne un centre de commerce important. Mais Nazareth reste pour eux sans intérêt pendant près de 30 ans. C'est alors qu'un protestant irlandais voit son potentiel et décide de faire quelque chose. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'était Montréal ou le Fort Ville-Marie à cette époque avant de parler de son expansion. La ville elle-même reposait entièrement sur ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal. De nombreux bâtiments étaient en bois et allaient brûler ou être démolis à un moment ou un autre, ou bien ils venaient d'être construits parce que la structure précédente avait été détruite par le feu. En 1721, alors que la colonie était encore française, Montréal reçut l'ordre de la France d'interdire la construction en bois. Mais cet ordre n'a jamais été entièrement respecté. Les fortifications originales de la ville, irriguées en 1717 par Gaspard Chausse-Gros de Léry, entourent toujours la ville. Ces fortifications longent ce qui est aujourd'hui la rue McGill à l'ouest, juste au nord de ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Jacques, pour la plus grande partie de leur section, se rétrécissant juste au-dessus de la rue Notre-Dame et descendant presque un bloc jusqu'à la rue Berry à leur point le plus à l'est. Au sud, les fortifications bordaient la rivière avec une poignée de bâtiments à l'extérieur, dont l'hôpital, un moulin et quelques résidences. Je posterai une carte de la ville fortifiée sur la page Facebook dans l'album intitulé Griffintown. Nous allons élaborer sur le sujet lorsque nous aborderons le Vieux-Montréal lui-même, mais pour l'instant, je souhaitais tout simplement clarifier ce dont nous parlons réellement lorsque nous évoquons Montréal à cette époque. Au nord de la ville se trouve le Mont-Royal, sur lequel une croix a été irriguée depuis plus d'un siècle. À l'est de Montréal s'étendent des terres agricoles appartenant aux Sulpiciens. Elles sont divisées en bandes perpendiculaires au fleuve et seulement une vingtaine de maisons seront irriguées le long de l'eau au cours des 35 prochaines années. C'est le secteur connu aujourd'hui sous le nom de Hochelaga-Maisonneuve, HOMA. L'immigration irlandaise a commencé au 17e siècle après que des pêcheurs aient passé l'été à pêcher du poisson sur la côte de Terre-Neuve, un endroit qu'ils appelaient Talam an Ice. Je suis sûre que j'ai mal prononcé ça. Ce qui signifie en gaélique « la terre du poisson ». De là, ils ont commencé à se disperser dans les maritimes. Après la chute de Louisbourg aux mains des Britanniques en 1758, suivie de Québec en 1759 et de Montréal en 1760, les Irlandais sont arrivés à un rythme plus fervent et étaient suffisamment nombreux pour que le Nouveau-Brunswick a failli s'appeler la Nouvelle-Irlande. John McCord, un marchand bien établi dans les ports achalandés d'Irlande, s'embarque pour le Québec à l'été 1760. Quelques mois plus tard, il installe sa femme et ses deux fils dans la colonie. John a 10 ans et Thomas a 12 ans. Il ne faut que très peu de temps à l'astucieux McCord pour s'introduire dans la maison et l'entreprise d'un marchand français expulsé et 3 ans plus tard, il a acquis l'acte de propriété de l'homme et s'est installé sur ses quais et dans ses cabanons. Il tire profit de la vente de spiritueux aux soldats ainsi que du commerce du rhum, du sucre, des épices, du thé et d'autres marchandises, au point d'engager des serviteurs et d'acheter des personnes mises en esclavage. Il part presque tout à la suite d'une mésaventure politique, mais son fils Thomas va redresser la fortune de la famille et c'est grâce à lui que le nom McCord est encore connu aujourd'hui. Thomas quitte la ville de Québec pour s'installer à Montréal en 1774 à l'âge de 24 ans. Il n'a pas le sens des affaires de son père, mais il le surpasse sur le plan social et politique, ce qui lui permet d'évoluer rapidement dans les bons cercles. À 41 ans, Thomas McCord est officier de milice, politicien, titulaire d'une charge publique et ancien directeur de la Montreal Distillery Company. La distillerie exploite 2 alambics dans un grand bâtiment en pierre situé sur la rue Saint-Sacrement entre les rues Saint-Nicolas et Saint-Pierre. En 1788, l'année même où il devient franc-maçon, l'un des principaux investisseurs de la distillerie, Jacob Jordan, fait saisir l'entreprise pour dette et un an plus tard, elle est achetée à l'enchère. Décidant de se concentrer sur l'achat des terres, il porte son attention sur Nazareth, dont une grande partie est également connue sous le nom de la Grange des pauvres, car son loyer de 25 livres par an est versé aux pauvres de la paroisse de l'Hôtel-Dieu. Un an plus tard, le 23 juillet 1792, il rencontre sœur Gabrielle d'Aibou, supérieure des sœurs de l'Hôtel-Dieu, ainsi que 3 autres religieuses pour signer un bail de 99 ans sur la propriété. Il s'installe alors dans une grande manoir en pierre de 3 étages, existant sur le fief, et se détend dans sa nouvelle vie à la campagne, tout en se consacrant à des activités politiques et commerciales. Il loue le moulin à vent et la maison en bois à un mineur local, mais n'entreprend pas immédiatement d'agrandir les terres. Il a tout de même fait importer de l'Angleterre des graines, des racines et des livres sur le jardinage, ce qui lui permet de planter des framboises et des groseilles, entre autres végétaux non indigènes. Par la suite, en avril 1793, il acquiert des baux sur des lots adjacents au sous-fief auprès de la Congrégation de Notre-Dame et des Sulpiciens dans l'intention de développer le secteur et d'améliorer les conditions de culture. Bien que tout ça semble être une bonne chose, Thomas a quand même accumulé une dette de 3 000 livres en 1796. Il doit de l'argent à son ancien associé George King ainsi qu'à James McGill et Levi Solomon, et les choses ne s'arrangent pas. En décembre 1796, Thomas McCord s'embarque pour l'Irlande afin de négocier la vente de certains de ses biens et de régler quelques affaires commerciales afin de rembourser une partie de ses dettes. Avant de partir, il confie ses responsabilités à Patrick Langan, un ami de la famille et le mari de sa nièce. Puis il loue une partie du sous-fief de Nazareth et des terres adjacentes à Daniel Sutherland et Robert Griffin pour une durée de 14 ans à raison de 110 livres sterling par an. Sutherland est un homme d'affaires, titulaire d'une charge publique et milicien, qui a immigré au Québec en provenance de Glasgow en 1776. Griffin est également un homme d'affaires qui possède une manufacture de savon et éventuellement de chandelles et qui sera des années plus tard le premier commis de la Banque de Montréal. McCord avait l'intention de rester en Irlande pour une saison, mais les troubles politiques qui ont dégénéré en rébellion l'ont maintenu à l'étranger jusqu'en 1805. Ces troubles ont anéanti le marché de l'immobilier et pendant son séjour, la rébellion de 98, l'une des insurrections les plus violentes qui ait connu l'Irlande, a eu lieu et McCord a fini par servir du côté des Britanniques. Une fois les choses calmées, Thomas McCord se rend à Londres pour son mariage avec Sarah Solomon, la fille d'un de ses anciens associés de Montréal. Ils ont eu les 2 premiers de leurs 5 enfants en Irlande où Thomas a tenté quelques autres entreprises commerciales avec l'aide de Patrick Langan, mais elles ont toutes échoué. En juillet 1801, McCord écrit ce qui suit à James Reed. On dit que les malheurs ne viennent jamais seuls et en effet, j'ai peut-être pleinement vérifié cette observation. Pendant ce temps, les affaires de McCord à Montréal se dégradent également sous la direction de Patrick Langan. Par exemple, en 1799, McCord a failli être poursuivi pour le paiement d'une dette, une épreuve qui a mené à la saisie d'une propriété qu'il possédait sur la rue Notre-Dame. En décembre 1801, McCord n'a d'autre choix que de déclarer faillite. Quant au fief, il a perdu tout l'attrait qu'il avait pour les riches qui commençaient à se construire des domaines au Mont-Royal et ailleurs. La petite rivière Saint-Pierre, qui n'existe plus, mais qui serpentait dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de Montréal, est devenue dégoûtante. Les gens y jetaient leurs ordures, s'attendaient à ce qu'elle se déverse dans le Saint-Laurent, mais il y en avait tellement qu'elle avait tendance à se ressembler à Griffintown, au pont qui reliait le fief à la ville. En 1804, les affaires locales de McCord sont dans un tel état financier que Langan fait saisir le bail original de Nazareth par le shérif, après quoi il achète le terrain pour lui-même, lors de la vente aux enchères qui en résulte. Bien qu'il n'en ait pas le droit, étant donné la manière dont il avait obtenu illicitement le terrain, il a ensuite vendu celui-ci à Mary Griffin, qui avait anticipé le besoin de logements abordables pour les ouvriers de l'usine de savon de son mari. En passant, à ce moment-là, elle et son mari vivaient déjà dans le manoir de McCord. Mary ne perd pas de temps à mettre ses plans en exécution. Elle charge l'arpenteur Louis Charland de subdiviser la zone et de tracer les rues et les terrains à bâtir avant de présenter son plan aux religieuses de l'Hôtel-Dieu. Le plan, qui concerne un tiers du territoire, s'écarte des modèles de croissance non organisés connus à l'époque et prévoit l'établissement de rues en quadrillage. Elle nomme le quartier Griffintown en l'honneur de son mari et d'elle-même, et elle propose des noms de rues en hommage à la couronne, tels que Queen, King et Prince, qui existent encore aujourd'hui. Cependant, sa proposition de changer l'ancien chemin de la Chine en rue Griffin a été rejetée. L'accord prévoyait que les religieuses recevraient un sixième du prix de vente de chaque lot, moins une commission de 10%, ainsi qu'un loyer foncier perpétuel et des droits de mutation. Ces derniers étaient essentiellement une surtaxe sur les améliorations et les augmentations de la valeur du terrain. Il s'agit d'un accord quand même lucratif pour les religieuses, même si les archives ont révélé par la suite que leurs agents n'avaient pas perçu les impopulaires loyers fonciers et surtaxes par crainte des Irlandais. Elles ont pu récupérer 15 000 livres d'arrière dans les années 1850, mais je m'écarte peut-être un peu du sujet. Lorsque McCord revient enfin en 1805, les surprises sont désagréables. Son ancien manoir est occupé, Mary Griffith a loué la grange des pauvres à Daniel Sutherland et plusieurs lots ont déjà été vendus. Une série de petites maisons d'ouvriers ont été construites dans les nouveaux lotissements et sur ces terres autrefois bucoliques se trouvent maintenant plusieurs marchands, des abattoirs et même un chantier naval. Dans un premier temps, bouleversé parce que tout ça impliquait, il n'a rien fait pour récupérer ses terres. Il loue une maison pour sa famille à Montréal et se lance dans une nouvelle affaire de commerce. Mais après l'échec de cette dernière en 1807, il accepte un poste d'agent seigneurial à Beauharnois, de l'autre côté du fleuve, au sud-ouest. Ça n'a pas duré longtemps, car en 1808, il était de retour en ville et prêt à se battre pour ses terres. Dans son procès, il accuse Langan et les Griffin de conspirer contre lui, affirmant que les Griffin étaient au courant de la manière frauduleuse dont Langan avait acquis les terres. Les Griffin ont évidemment nié tout ça. McCord gagne la première ronde, mais les Griffin contestent. Ils ont juste trop à perdre car la valeur du terrain a augmenté de façon spectaculaire. La bataille juridique fait rage et pendant ce temps, Robert Griffin continue d'exploiter sa savonnerie sur le chemin Lower Lachine, qui est aujourd'hui la rue Wellington. Thomas McCord se lance en politique, malgré le conflit, et se présente avec succès à l'Assemblée législative, remportant l'un des deux sièges de Montréal-Ouest. En 1801, McCord accepte un rôle de juge de paix principal ainsi qu'un rôle de magistrat de police. Et la bataille juridique continue. En 1812, le conseil privé confirme finalement le jugement initial des tribunaux inférieurs, mais il faudra attendre encore 2 ans pour que Thomas McCord retrouve la pleine possession de ses biens. En 1814, il retourne enfin dans son fief. Mais grâce à la sagacité des Griffin, il perçoit des loyers annuels de plus de 400 livres, dont 80 sont reversés aux religieuses. S'inspirant de ce que les Griffin avaient mis en place, Thomas développa le plan et subdivisa une autre partie des terres en plusieurs lots en 1816, juste au moment où la première vague d'immigrants irlandais arrivait. Bien que le nom Griffintown n'ait pas devenu son appellation officielle, le nom est resté, et en 1825, les journaux et certains documents juridiques désignaient le quartier sous le nom de Griffintown Suburb ou banlieue de Griffintown. Et c'est ainsi que l'un des quartiers les plus gentrifiés de Montréal a été baptisé à l'origine. Entre 1819 et 1822, McCord dépense près de 2 000 livres pour une vaste maison de briques à 6 côtés et à 2 étages, dotée de fenêtres arquées de style gothique, et la remplit de meubles extravagants, la plupart fabriqués sur mesure. Il a vécu assez longtemps pour pouvoir parcourir les 7 premiers milles du canal de la Chine qui était presque terminé. De la Chine à la quatrième écluse située à l'extrémité du quartier Sainte-Anne, lorsque le canal a été ouvert au trafic commercial en août 1824. Il meurt d'un cancer le 5 décembre 1824. Ses fils, John Samuel et William King, héritent des dettes et des projets inachevés de leur père, mais les revenus locatifs de leur propriété de Griffintown quadruplent pour atteindre plus de 1260 livres au cours des 15 années suivantes. Rejoignez-nous la semaine prochaine où nous parlerons d'une famine catastrophique qui a détourné les Irlandais vers notre côte, de l'épidémie mortelle qui s'en est suivie et de la construction du pont Victoria. J'espère que vous avez bien aimé le premier épisode d'Histoire du Québec. Comme promis, je vous parlerai un peu de moi à la fin de chaque épisode. Donc, je suis née à Montréal et j'ai commencé ma vie à Rosemont, sur la rue de Lorimier, juste au sud du boulevard Rosemont. Mes deux grands-mères, mes oncles et mes tantes vivaient dans le quartier et je jouais dans la ruelle comme tous les enfants de mon âge. Je fréquentais l'école St. Brendan où tous les mercredis, après la catéchèse, Sœur Sarah me faisait rester après la classe pour m'avertir des dangers du purgatoire grâce à mon âme non baptisée. Bientôt, les autres élèves s'en sont rendus compte et cela s'est transformé en Rosemary va en enfer. Ouais. D'autres souvenirs de Rosemont incluent le grand Antonio qui se promène, j'avais tellement peur de cet homme, l'odeur du pain qui cuit chez Durivage, les bonbons à un sou chez Perrette et une petite peur chaque fois que je passe sous le viaduc de Lorimier. J'aimais aussi regarder les garçons faire du skate dans le terrain vacant derrière le dépanneur qui était relié au triplex dans lequel nous vivons. L'été suivant ma deuxième année scolaire, mes parents ont divorcé et j'ai commencé à partager mon temps entre la région d'Ottawa et l'Outaouais et le sud-ouest de Montréal. En passant, lorsque j'ai fait des recherches sur Durivage pour ce segment, j'ai appris que le fondateur de l'entreprise, Alphonse Durivage, venait d'une famille de 10 enfants dont les parents ne pouvaient pas vraiment subvenir à leurs besoins. Donc, son père l'a déposé au coin de Saguenay et de Sainte-Catherine. Il lui a donné 1$ et il lui a souhaité bonne chance. Le jeune Durivage a trouvé un emploi comme apprenti dans une boulangerie, puis 14 ans plus tard, il avait accumulé assez d'argent, soit 300$, pour acheter la boulangerie. Quand même. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mardi prochain quand on commencera à vraiment tisser les Irlandais dans l'histoire. À bientôt!